les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur les chemins de traverse. Nous sommes avec nos invités du jour. Des chemins de traverse qui vont dans la continuité donc du quart d'heure Poitevin. Je vous conseille, si vous voulez entendre parler de randonnée et puis voir surtout les randonnées sur le secteur, de vous rendre sur rando86.fr, nos amis, qui chaque semaine vous donnent donc les différentes randonnées dans la Vienne avec un programme, un agenda sur le mois. Nous avons aujourd'hui donc deux invités. C'est Jérôme Neveu pour le premier. Jérôme Neveu, bonjour, comment allez-vous?
Bonjour Francis, très bien, merci.
Écoutez, vous êtes maire de Genêt-Marigny.
Exactement, une ville où il y a beaucoup de randonnées, notamment sur Marigny-Brisée.
C'est ce que je disais tout à
l'heure. Et nous avons d'ailleurs un trail des vignes prochainement le 17 mai. Et on a vraiment de très beaux circuits au cœur des vignes, au cœur des forêts. C'est très vallonné et je crois que beaucoup de randonneurs connaissent.
Vous avez surtout beaucoup de chance parce que vous avez le Futuroscope.
Aussi. Et on fait beaucoup de marches au Futuroscope. Ouais. Hein. En moyenne, un visiteur fait 12 km par jour.
Ce qui est possible. Alors mon fils a un abonnement annuel maintenant donc pour le Futuroscope. Il est allé 4-5 fois déjà depuis le début de l'année. Je crois qu'il en est à 16 000 pas à chaque fois qu'il y va.
Il y a les applis maintenant qui permettent de bien évaluer les efforts faits.
Ouais. Notre second invité, vous en parliez, c'est concernant le trail, hein, le techno-trail qui se déroulera donc le 13 juin prochain. Avec un invité, c'est Clancy Perrine.
Bonjour à tous.
J'ai toujours un peu de mal. Alors je me posais la question, je vous le dis franchement. Je trouve le prénom très joli, c'est Clancy.
Oui, le prénom c'est Clancy, effectivement, et le nom de famille Perrine.
Et quelle est l'origine du prénom?
Le prénom est d'origine irlandaise.
Irlandaise, d'accord.
Donc un prénom qui a plu à mes parents et voilà.
Je comprends.
Mais qui crée de la confusion, hein, puisque effectivement entre le nom et le prénom, souvent, voilà, c'est
quand
mademoiselle
photo,
ou madame.
Oui, quand on vous voit en photo, on n'en doute pas. On doute pas du
tout. Après, j'espère.
Voilà pour cette émission. Donc on va parler aujourd'hui des mères, hein, du mal-être de mère, peut-être pas, parce qu'ils sont pas tous.
Ils sont pas tous au fond du trou.
Exactement, oui. Exactement, non. Tout à fait. Et puis, on va parler un peu de randonnée, hein, de trail plutôt. On en parlera d'ici un quart d'heure avec notre invité. Vous reviendrez d'ailleurs, hein, Clancy, le 7 juin prochain, avec nos amis du swimrun et de Randovienne. Le swimrun, c'est une descente, c'est un marathon, on va dire, qui se déroule entre Chauvigny et La Chapelle-Moulière, avec une partie natation aussi. Donc, ça, c'est pour je crois que ça le 15 juin. Le 14 juin, c'est Randovienne, c'est la descente en canoë de Lussac-les-Châteaux à Chauvigny. Et puis le 13, c'est le trail dont on parlera tout à l'heure, donc sur la Technopole. Une Technopole où il y a pas mal de choses, hein, Jérôme, qui se passent.
250 entreprises et activités universitaires et plus de 10 000 étudiants. Donc c'est vrai que c'est un site en cœur de Vienne qui crée de l'emploi et beaucoup d'activités.
Exactement. Un site. Alors toutes ne font pas partie, je suppose, de Genêt-Marigny.
Non, la Technopole est plutôt sur Chasseneuil du Poitou.
D'accord.
Parce que le parc du Futuroscope est à cheval sur Genêt-Marigny, qui a le siège, hein, du Futuroscope. Et ensuite, effectivement, le développement s'est passé sur Chasseneuil.
Ouais. Alors, c'est vrai que j'en parle parce que vous êtes chargé de communication au niveau du Futuroscope.
Je suis en charge des relations avec la presse et des relations extérieures. Et compte tenu aujourd'hui du développement du parc, c'est vrai qu'on est très sollicité par les médias. C'est une bonne chose pour le département de la Vienne. Hein, là, on a beaucoup de tournages. Il y a l'émission Grand Reportage de TF1 qui prépare à 52 minutes. Ils vont venir dans deux semaines là, finir leur reportage à l'Aquascope. Uh-huh. Et dans la nouvelle attraction Mission Bermude qui sera en soft opening. Et puis on a TMC qui prépare un 90 minutes d'enquête sur les coulisses du parc. Un capital qui a déjà été tourné et qui sera diffusé le 7 juin. Donc oui, beaucoup de médiatisation et audiovisuel, c'est encore mieux parce qu'on connaît la puissance du média télé. Ouais.
Exactement, avec l'Aquascope, hein, qui a ouvert l'été dernier, c'est ça, au mois de juillet?
L'Aquascope, ouverture le 15 juillet dernier, et depuis c'est un succès qui ne se dément pas. Là, pendant les vacances et les ponts, l'Aquascope affiche complet. Hein, donc il faut vraiment réserver en amont ses horaires et ses créneaux. Mais ça a donné une nouvelle dimension au site du Futuroscope. Aujourd'hui, on est vraiment reconnu comme un resort de dimension européenne. Nos hôtels affichent complet et c'est pour ça qu'il y a un projet de troisième hôtel en 2028.
Ouais. Alors l'Aquascope qui manque un peu, à mon avis, de végétation. Alors j'y suis allé moi au mois de décembre. C'est vrai que c'est un peu ce qui m'a manqué.
Ah bah en décembre. Oui, revenez-y au printemps. Vous serez étonné. Au contraire, c'est un parc maintenant ombragé. D'ailleurs, les visiteurs sont invités à se poser et pas de courir d'une attraction à l'autre avec des fat boys. Ils peuvent pique-niquer sur nos pelouses.
Je parlais de l'intérieur. l'extérieur. C'est vrai qu'en décembre, je suis pas.
Non, mais c'est vrai. Non, venez au printemps. Franchement, c'est un parc très ombragé et très agréable.
Vous êtes, je le disais, donc maire de Genêt-Marigny, une commune de la Vienne, située donc le long de la nationale 10. C'est pas forcément évident.
On dit RD 910 maintenant. Ah, c'est une route qui a été transférée au département.
Au département. Là,
RD 910, mais c'est vrai que les anciens Poitevins connaissent bien la nationale 10, puis c'est pas si ancien que ça. Genêt-Marigny, oui, une commune de près de 8000 habitants, qui est née de la fusion en 2017 de Genêt-Clan et de Marigny-Brisé. Donc elle a le statut de commune nouvelle, qui lui a permis effectivement d'avoir des dotations en plus et de garantir aussi des financements. Et puis c'est vrai que c'est une belle complémentarité, un joli bassin de vie, puisque les habitants de Marigny consomment, vont dans les associations aussi de Genêt. Mais surtout, on a une histoire autour de la vigne et du vin. Et donc l'idée, c'était vraiment de travailler ce potentiel et ce patrimoine autour d'animation. Nous, on avait la chance d'avoir la plus belle foire au vin. Miel gastronomie de l'ex-Poitou-Charentes. Marigny avait ses châteaux et ses vignes. Et donc cette union a vraiment donné du sens. Et aujourd'hui, 8 ans après, on peut considérer que c'est une réussite.
Ouais. Seul point noir, la traversée de la commune. Lorsqu'on est sur la RD, vous avez bien fait de me rappeler que c'est une RD, donc une route départementale, puisque vous êtes en même temps conseiller départemental.
Ouais.
Donc aucune excuse de ce côté-là. C'est vrai que c'est un peu le point noir, la traversée de la commune, mais pas seulement la vôtre. Hein.
C'est vrai. De Châtellerault, ça ne donne pas forcément la meilleure image de la commune à traverser par cette route départementale. Il faut vraiment s'aventurer dans la commune. Alors Marigny-Brisé, c'est encore un petit peu plus loin, mais là c'est beaucoup plus vert, plus rural. Mais dans Genêt, il y a de très belles bâtisses, une belle mairie d'ailleurs. On a un château couvert avec son parc aujourd'hui accessible au public. Donc il faut oser s'aventurer dans Genêt-Marigny.
Des travaux prévus sur cette RD 910 ? Je parle notamment au niveau des bâtiments qui entourent. C'est vrai que vous êtes un peu. Alors moi, quand je dis pas, j'ai un peu l'impression un peu comme à Lusignan, en fait, où on a cette rue sombre, et c'est un peu malheureusement l'idée qu'on en a, quoi.
Ouais. Alors on a lancé des opérations au PH, vous savez, d'amélioration de l'habitat, mais là aussi, il faut quand même s'il y a des subventions, il faut que les propriétaires mettent la main à la poche. Il y a un îlot effectivement que la commune souhaite racheter, qui est en bas de la grande rue, qu'on aimerait raser pour justement aérer. Des maisons de particuliers, mais qui sont. On en a acheté 2 sur 3 et la troisième présente une difficulté à l'achat parce que le propriétaire. C'est compliqué pour lui de vendre dans de bonnes conditions. Donc, mais autour de la gare de Genêt. Pour le coup, on a idée de faire un pôle de mobilité avec les bus, etc., qui rentrerait davantage encore dans la ville, alors qu'on a des TER le matin et soir qui sont bien chargés. Donc on a encore la chance d'avoir une gare en cœur de bourg. Et donc, dans la traversée de Genêt sur cette route départementale, là, il y a quelque chose à faire. Ouais.
Donc,
on y travaille.
Quelque chose à faire. On peut espérer vous voir. On peut espérer vous voir pour cela après 2026, peut-être.
Il m'a dit qu'il me poserait la question.
Oui.
Alors, je vais lui répondre que j'y pense en me rasant.
Exactement. Mais c'est vrai que je l'ai fait pour Gérard Herbert l'autre jour. Il m'a pas donné de réponse. J'ai eu l'idée tout de même de la réponse. Mais voilà. Mais après tout, pourquoi pas. Je pense surtout en même temps aux élections. Alors, quand on pense à vous, quand on vous regarde, on se dit que vous êtes à peu près le même circuit, hein, quelqu'un d'autre. C'est Alain Pichon qui a été maire à une époque, qui a été, je vous ai dit, j'en parlerai aussi, puisque j'en ai parlé à Alain Pichon à l'époque, qui a été maire lui aussi, qui a été conseiller départemental, qui est aujourd'hui président du département, justement en vous rasant,
a été président des maires aussi.
Tout à fait, président des maires.
Effectivement. Mais il a commencé jeune lui aussi, hein. Je crois qu'il était conseiller municipal à Entrant, il avait une vingtaine d'années, et ensuite il a gravi les échelons pour être maire de la belle commune d'Entrant. Je pense que c'est ce qui a manqué d'ailleurs à l'Assemblée nationale, des élus de terrain qui effectivement ont pris connaissance des enjeux progressivement, et aujourd'hui effectivement Alain est président du département, il le fait très bien, avec pragmatisme.
C'est 2028 les prochaines.
C'est 2028, c'est un mandat exceptionnel de 7 ans. Pour les conseillers départementaux, puisque en raison de la présidentielle et des législatives en 2027, tout ça peut être aussi.
Oui.
On est habitué maintenant à que le calendrier peut changer, mais s'il ne bouge pas, en tout cas, on ne pouvait pas avoir les municipales, les cantonales en même temps que les législatives et présidentielles. Donc, c'est un mandat de 7 ans.
C'est ça. Donc, on a l'année prochaine les municipales, 2027 les
présidentielles et 2028 les départementales.
Exactement. Peut-être les législatives avant cela.
On verra.
Vous parliez justement tout à l'heure en vous rasant, le fait d'être député, ça vous a intéressé un jour ou l'autre? Ça vous intéresse?
Oui, je me suis déjà présenté aux législatives, c'était en 2000, parce que le temps passe vite, 2022. Voilà. 2022, oui, je me trompe.
D'accord.
Pas.
Qu'est-ce qui a manqué? Vous allez me dire quelques voix.
La circonscription est rurale, mais très urbaine aussi, avec beaucoup de quartiers de Poitiers. Ouais. Et il y a un vrai déséquilibre. Et puis, c'est vrai que c'est une circonscription, il faut le dire, plutôt à gauche. Et donc aujourd'hui, avec l'union de la gauche à l'époque de la NUPES et aujourd'hui même du Front Populaire, il y avait peu de place pour des élus, même s'ils étaient bien implantés. Moi, j'ai été présenté en 2022. La dernière fois, c'était Séverine Saint-Pé, la maire de Neuville. Et j'avoue qu'en 2022, je pensais que justement, avec l'éclatement des partis, etc., il y avait peut-être la place pour des élus de terrain qui connaissent les enjeux locaux et le développement local. Et en fait, la force médiatique des grands partis. Je m'étais présenté sous les couleurs de l'Union du Centre et de la Droite. Mais à l'époque, il y avait la NUPES, qui était très super médiatisée, avec les mélanchonistes, etc. Il y avait l'extrême droite, qui est très médiatisée aussi. Et il y avait le bloc central à l'époque, avec
Macron.
Qui commençait à être mal en point. Et voilà. Mais ça a été une circonscription quasiment toujours à gauche. À l'exception, Éric Duboc, en 93, je me souviens, avait une petite parenthèse de 2 ans. Et puis, il y avait Jacques Savatier, au lendemain d'une élection présidentielle, où effectivement, il y avait eu un raz-de-marée. Donc, cette circo, il faut être soit de gauche ou suivre le raz-de-marée présidentiel. Donc, voilà. Ouais. Mais j'avais des choses à défendre, effectivement, et notamment par rapport à ce qui nous intéresse ce matin, au rôle des maires dans cette législature où je pense que la décentralisation a reculé.
Exactement. On va y revenir justement sur le rôle des maires, puisque vous êtes en même temps président de l'association des maires de la Vienne. Il y a une deuxième association par rapport à ça, parce que j'ai vu que le maire de Schoenwald, notamment, était le président des maires.
Moi, dans toute la France, il y a des associations de maires de France. Ouais. Là, le président national, c'est le maire de Cannes, David Lisnard, qui représente la plus grande partie des communes de France, rurales, périurbaines, urbaines, qui a vraiment un rôle de lobby et très influent à Paris, et avec des vrais relais sur les territoires. Et puis, c'est plus récent dans la Vienne, mais ça existait déjà dans d'autres départements, une association des maires ruraux. Pour porter sûrement un peu encore davantage la parole de la ruralité.
Une association qui n'a rien de politique, parce que j'ai l'impression, alors c'est peut-être un souvenir dans ma tête, mais j'ai l'impression que les présidents nationaux des maires de départements étaient plutôt de droite.
L'AMF a souvent été, quasiment toujours d'ailleurs, présidée par un élu de droite, parce qu'il y avait François Baroin. Oui. Jacques Pélissard, Dudoux, etc. Parce que la France, les 36 000 communes de France, sont souvent effectivement représentées par des élus, alors souvent sans étiquette, mais qui portent plutôt le centre droit, quoi. Sur les 36 000, elles sont plus, la portée des maires est plus importante.
On le voit notamment dans le département de la Vienne, c'est vrai, on peut majoritairement de droite, entre guillemets, de centre droit en tout cas.
Oui, parce que beaucoup d'élus locaux se disent sans étiquette. C'est vrai que dans les communes jusqu'à 10 000 habitants, on va dire, franchement, on est là au quotidien pour développer sa commune. Et on connaît d'ailleurs les besoins de notre commune. Et c'est pas en fonction des idées de droite ou de gauche qu'on avance. C'est plutôt en fonction déjà des moyens de chaque commune et puis de la volonté d'avancer ensemble.
C'est ça, on le voit d'ailleurs avec la poussée du Front National. On ressent dans les petites communes, là, comme ça, ce mécontentement, on va dire, puisque c'est une...
Ouais, ça interpelle tout le temps. Hein, on l'a vu aux dernières législatives, mais même aux dernières cantonales, alors qu'il n'y a pas des problèmes d'immigration dans notre ruralité. Je pense que c'est plus le sentiment d'abandon des petites communes et qui se traduit comme cela. Puis je pense aussi la force médiatique qui montre en boucle sur les chaînes d'info continue tout ce qui existe en termes d'insécurité en France aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une réaction de protection qui résume ça, quoi.
C'est ça, tout à fait. Avec, notamment, on peut le dire, au niveau des maires de la Vienne, alors je suppose que c'est un peu la même chose ailleurs, les gens ne sont pas si mécontents que ça. Ça se passe relativement bien au niveau de la population, je parle.
Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'en termes de services publics, le département de la Vienne a toujours veillé, en lien avec l'État, enfin, la préfecture et les intercommunalités, à toujours proposer des services publics de proximité. Ensuite, on sait, il y a des vrais soucis liés effectivement à la fermeture des écoles, des commerces, mais il n'y a pas que dans la Vienne, c'est la société qui a changé aussi.
Exactement. Et, bien, écoutez,
et la baisse de la population.
Voilà, bien, écoutez, je vais vous proposer une petite pause musicale, on se retrouvera tout de suite après. C'est Louane. Alors Louane va être très prochainement la représentante de la France à l'Eurovision, c'est dans une dizaine de jours. Donc voilà, on va s'écouter, on revient tout de suite après.
Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de lit. Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. Et le vide est grand, les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé, j'ai bien grandi. De toi, j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis.
C'était donc Louane qui représentera la France à l'Eurovision d'ici quelques jours, quelques semaines. On va continuer notre émission. On est avec Jérôme Neveu, donc le maire de Genêt-Marigny, mais pas que, qui est aussi président des maires de la Vienne. Alors, je n'ai pas parlé du reste. Vous êtes aussi membre de l'UDI, c'est l'Union des Indépendants...
Et des démocrates et des indépendants.
Dépendants, voilà. Démocrates
présidé et indépendants. Par Hervé Marseille, qui est le président du groupe centriste au Sénat.
Le fondateur, c'est Jean-Louis Borloo, c'est ça?
Le fondateur, c'est Jean-Louis Borloo, oui.
Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui?
C'est vrai qu'il a quitté assez rapidement ce mouvement, qui est un mouvement européen, décentralisateur, libéral et social. Et c'est vrai que son départ a un peu diminué la dynamique,
pour
être transparent. Mais c'était dans l'héritage de l'UDF, de Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, Et puis même François Bayrou qui avait repris un moment le lead sur la nouvelle UDF. Voilà, voilà. Là, je parle des années 90.
Exactement. Jean-Louis Borloo qui est parti, je crois, électrifier l'Afrique et qui avait la volonté d'aller électrifier l'Afrique.
Alors aujourd'hui, il intervient parfois sur des sujets, mais il n'est plus acteur public.
Exactement. Vous n'êtes pas chargé d'électrifier le Poitou. Hein. Vous êtes chargé surtout d'apporter un peu de lumière.
J'ose espérer que l'électricité est partout dans la Vienne.
Au moins apporter de lumière.
L'eau aussi. La fibre, c'est en cours.
Ouais. Apporter un peu de lumière aux habitants de la Vienne, hein, puisque il y en a bien besoin. Il y a un côté un peu morose, on va dire, de la population en général au niveau national. C'est vrai que les maires sont souvent confrontés à ce genre de choses. Mmh. Vous êtes le premier intervenant. C'est parfois difficile, ça, de recevoir.
On est la porte d'entrée de toutes les doléances, c'est clair. Même quand parfois nous n'avons pas la responsabilité de la chose, hein, parce que maintenant, notamment ici, dans le cadre de Grand Poitiers, cette communauté urbaine qui vient jusqu'à Chauvigny.
Communauté
urbaine, ça a absorbé beaucoup de compétences, on y reviendra peut-être, mais c'est vrai que du coup, le maire sent parfois seul face à ses habitants. Il y a bien sûr le poids des normes, qui est la suradministration qui nous ralentit dans le développement. Et ça a joué beaucoup quand même sur le moral des troupes.
Exactement, clair. Oui. Donc le Grand Poitiers qui a absorbé donc pas mal de compétences. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. On a voulu à l'époque que les maires de la Vienne restent, de Grand Poitiers restent les portes d'entrée. Si vous voulez, dans Grand Poitiers, c'est un peu plus difficile aujourd'hui. On est des portes d'entrée, mais on n'a rien derrière. En fait, hein, c'est compliqué.
Ouais, et puis on peut plus. Enfin, les habitants, ils ont raison. Ils ne peuvent plus se contenter de dire, c'est pas moi, c'est Grand Poitiers. Bon, on est aussi élu à Grand Poitiers. Mais une grande intercommunalité à 40 communes, donc qui représente presque la moitié en termes de population du département de la Vienne. Près de 200 000 d'ailleurs, parce que c'était une dérogation qu'avait obtenue Alain Claës. Normalement, pour être une communauté urbaine, il faut être 200 000. On est à 192 000. Bon, on n'était pas très loin. Ils ont été cherchés, vous avez vu, dans le pays mélusin, un peu dans le pays chevinois, le Val-Vert englouti. Et donc, on a créé une communauté urbaine, je m'exprime souvent sur le sujet au conseil communautaire, mais qui n'avait pas forcément de sens, en fait, parce qu'il y a de l'hyper-ruralité, de l'hyper-urbain, et c'est compliqué de trouver un équilibre et des compétences harmonisées. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un gros paquebot qui a de moins en moins de moyens, et il va falloir se poser les bonnes questions. Je pense qu'il aurait fallu déjà être une communauté d'agglomération qui aurait moins absorbé de compétences, de proximité. Et on voit bien que plus c'est gros, moins la proximité est efficace. Hein. Je sais que le problème existe aussi sur Chauvigny en termes de qualité de voirie. Je reviens souvent sur le sujet au conseil communautaire parce que c'est ce qui est le plus visible de la population, les fauchages, etc. Et lorsque ces politiques-là ne sont pas au rendez-vous, c'est forcément le maire que les gens le connaissent. Il a été élu au suffrage universel et ils attendent de lui beaucoup de choses. Alors que l'intercommunalité, c'est une élection de second degré qui pourtant a beaucoup plus de moyens. Et je pense que notre système aujourd'hui démocratique français n'a pas pris en compte cette réalité.
Alors pareil, c'est vrai, vous êtes maire de Genève-Marigny, c'est la première ceinture en fait par rapport à Poitiers, vous avez cette chance. Moi je le dis souvent, j'ai été élu donc sur l'appui, donc à l'extrême, le Grand Poitiers c'est 70 km, à l'extrême, alors moi j'ai voté pour rentrer directement dans Grand Poitiers, on n'avait pas trop le choix, c'était Grand Poitiers ou Montmorillon. Montmorillon ça me semblait pas l'idéal pour moi qui allais travailler à l'époque sur Poitiers, mais le rôle d'un, non pas le rôle, mais les possibilités d'un maire comme celui de l'appui, comme celui de Saint-Radegonde, par rapport à un maire comme vous, c'est un peu plus compliqué de se faire entendre, je suppose.
Totalement, parce que nous on a la chance quand même d'avoir des services aussi, et notamment des services d'urbanisme, parce que dans le cadre de l'élaboration du futur PLU intercommunal, où les réunions se multiplient en journée, etc., il est clair qu'un maire qui siège tout seul à l'agglomération ne peut pas siéger dans toutes les commissions et être représenté. Et ça, c'est une vraie difficulté, effectivement. Et puis, on le voit bien, les commissions qui rassemblent 70 élus, eh bien, petit à petit, au cours de la mandature, se sont effritées. Alors, heureusement, il y a quelques visios, mais heureusement et malheureusement, parce que finalement, ça crée moins de débats et moins d'interactions. Et donc, c'est une vraie difficulté aujourd'hui, je trouve, pour alimenter le débat, la présence. Et vous avez raison d'insister. Je pense que les petites communes ne s'y retrouvent pas aujourd'hui dans notre grande agglomération. Alors, il y a eu plusieurs crises de gouvernance suite à des maires, et j'en fais partie, qui ont été remerciés du bureau parce qu'ils ont voté contre une hausse d'imposition, d'impôts qui était, souvenez-vous, au début de la mandature, plus de 300% de la taxe foncière, qui était fléchée vers vers des investissements plutôt picto-pictaviens. Et on pouvait, je pense... Alors, il fallait augmenter parce qu'à un moment, la dette était très forte à Grand Poitiers, mais on pouvait étaler un peu les investissements et surtout, c'est mon combat d'aujourd'hui, de aussi diffuser les investissements sur tout le territoire parce qu'il faut créer comme des équilibres. Et c'est vrai que du coup, je parlais de compétences, mais c'est vrai qu'une communauté urbaine, ça va de la voirie au développement économique... Tout ce qui était fiscalité dynamique, et notamment, alors je parle de ce que je connais le mieux, mais de ma commune, qui avait des entreprises qui s'installent, qui s'installaient et qui s'installent encore, eh bien, le delta, il va à Grand Poitiers, mais plus dans nos ressources propres. Mmh. Même chose pour le tourisme ou la taxe de séjour. Le Futuroscope accueillant de plus en plus de tourisme, de touristes, on pouvait imaginer là aussi une croissance dans nos budgets, et c'est plus vrai. Donc, non, par contre, sur le plan, je veux pas être que négatif, mais dans le plan positif, il y a la mobilité. C'est vrai que, exactement. Alors, bien sûr, du coup, les entreprises de plus de 10 salariés, ou même les collectivités, hein, c'est le cas de mon EHPAD, ma mairie, il a fallu verser cette nouvelle taxe, mais qui a permis de développer les transports Vitalis, et je sais que Chauvigny en bénéficie aussi. Ça, c'est un vrai plus, c'est vrai.
Alors c'est vrai, j'en parlais avec Florent Jardin, vous parliez de transport justement, par rapport aux Journées du Patrimoine, et je lui soumettais l'idée d'un bus du patrimoine qui pourrait amener les gens de Poitiers, pourquoi pas aussi ceux de Genet-Marigny, en direction de l'Appui par exemple pour connaître, ou de Lusignan un peu plus loin, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, on est à 70 km les uns des autres, et on a l'impression de ne pas se connaître, en vérité il n'y a pas de lien véritablement.
C'est compliqué, hein, c'est vrai, la distance fait que c'est pas une évidence.
C'est pas une évidence,
c'est clair.
Avec des petits villages.
Alors il faut inventer, il y a une belle manifestation qui s'appelle... Enfin, le festival d'été, la itinérance,
oui,
qui invite quand même à la découverte du patrimoine local. Ça fait partie des bonnes idées.
Avec des petites communes, hein, dans le secteur du Chauvinois, c'est Saint-Radegonde, qui a une centaine, 150, 200 habitants, je ne sais pas trop. L'Appui, qui en a 500 environ. C'est vrai que l'avenir, c'est quoi? C'est le regroupement de ces petites communes? Parce qu'on peut se poser la question par rapport au nombre d'élus. Quand je vois sur une commune comme Lautier, qui a 68 habitants, c'est le grand.
Ouais, c'est la plus petite commune de la Vienne.
Exactement,
je crois,
mais je crois qu'on a 7 élus. À un moment, ça ne veut pas dire grand-chose. 10% de la population qui est élue. Pourquoi? Est-ce que l'idée, ce ne serait pas d'avoir.
Surtout avec des moyens très. Pardon, je vous ai coupé, mais avec des moyens très faibles, effectivement. Exactement. Donc j'imagine que je connais pas le budget de fonctionnement de la ville de Lautier, la commune de Lautier, mais ouais, il faut aller au plus pressé, j'imagine, au niveau des trottoirs ou l'entretien, mais on peut pas développer des projets.
C'est vrai que l'idée, c'est peut-être pas dans l'avenir d'avoir un peu moins d'élus et un peu plus de participation de la population pour ces petits villages, j'entends.
C'est une vraie question, mais je sais pas si les habitants sont prêts, finalement.
On parle de parité aujourd'hui, c'est encore plus compliqué, aller faire des listes avec autant d'hommes que de femmes.
Ouais, c'était le sujet du moment, là, c'est passé, hein, ça a été voté. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel va quand même donner son dernier arbitrage cette semaine. Moi, j'étais plutôt favorable, même si ça va être compliqué peut-être pour les maires ou les candidats à trouver, même dans les petites communes, un homme, une femme, une liste Shabada. Mais au moins, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Parfois, des communes se retrouvaient avec un maire qui n'était pas forcément attendu dans les petites communes. Et puis, c'était, comme on dit, le tir au pigeon, on rayait des noms. Alors, les gens aiment bien régler leur compte, sûrement. Mais au moins, ça permet d'avoir une liste avec une tête de liste, un projet pour la commune. Ça me paraît quand même plus raisonnable.
Il fait qu'on n'aura plus de candidature individuelle dans ces petits villages.
Bah oui.
Je vous dis ça parce que moi, je m'étais présenté de façon individuelle, ouais. Pas pour devenir maire.
Ouais, mais du coup, sans connaître le projet auquel vous adhériez.
Oh, j'avais deux.
Vous avez deux, trois idées.
Disons que c'était surtout pour faire barrage à l'époque à certaines personnes,
ouais.
En disant voilà, c'est une façon de m'exprimer.
Mais sans... au moins, dans toutes les communes de France, il y aura le même mode de scrutin. Et je pense que c'est pas plus mal. Après, moi, j'avais juste une réserve sur le voter maintenant à 6 mois des élections municipales. Je trouvais ça un peu court parce qu'il y a sûrement des adjoints qui ont fait un très bon travail et qui vont peut-être être remerciés pour mettre une femme à la place.
Ouais,
et ça. Je trouve pas ça très bien en si peu de temps, quoi.
C'est vrai que c'est assez compliqué. Moi, je vois que si on vient demander à mon épouse, c'est à la volonté d'intégrer un conseil municipal, c'est un peu différent. C'est moins facile peut-être que pour un homme, hein, puisque faut bien reconnaître que nos épouses sont. Alors, c'est louable, hein, la décision.
C'est ce que
louable.
Vous allez dire.
Non, la décision est louable, au contraire, je la défends, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que pour une femme, c'est plus compliqué aujourd'hui de se dire je vais rentrer au conseil municipal, tout simplement parce que, pour en venir au fait que dans un conseil municipal, vous avez un maire, vous avez des adjoints, Et puis vous avez des gens qui sont qu'on appelle des conseillers, qui sont à peine là pour conseiller, puisque les décisions se prennent en amont. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais justement de ces élus qui sont peut-être un peu trop nombreux, il faudrait peut-être les réduire. Le rôle d'un conseiller aujourd'hui dans votre commune,
un conseiller municipal de base, c'est ça, ouais, dire. C'est toujours la difficulté, effectivement, parce que vous faites référence aux municipalités, aux réunions d'adjoints,
exactement,
où les décisions stratégiques se prennent. Après, c'est tout dépend de la gouvernance. De partager l'information avec ses conseillers. Moi, je sais que j'envoie à ma majorité mon agenda. Ça leur permet aussi de visualiser un petit peu les sujets, débats en cours, les personnes que je rencontre pour faire défendre des projets, etc. Il y a des séminaires. Je crois que ça dépend beaucoup du mode d'animation de son équipe.
Bah écoutez, on va se faire une deuxième pause musicale. Tiens, il est 11h30. Une deuxième pause musicale, c'est Indochine qui nous chante La Belle et la Bête. Et on revient tout de suite après. On parlera du Technotrail, tiens,
très belle idée.
Juste après. À tout de suite.
We believe that peace is at hand. We believe that an agreement is within sight.
Soyons des anges exigeants, des gouttes d'eau dans l'océan.
Thank you.
nous sommes toujours sur ROC 103.7 et les chemins de traverse pour cette émission qui, chaque semaine, donc, vous parle de l'actualité de la Vienne. Nous sommes avec Jérôme Neveu, maire de Jaunet-Marigny, et Clemcy Perrine, qui, lui, est l'organisateur du Technotrail, hein, qui se déroulera très prochainement sur la Technopole du Futuroscope.
Absolument. Donc, je suis coprésident de l'association des Cavaleurs du Clin avec Serge Boriès. Effectivement, je suis un des organisateurs, hein, c'est l'association des Cavaleurs du Clin qui porte et qui organise ce beau projet.
D'accord, un projet, une première édition, je crois.
Une première édition, effectivement. Changement de ce qu'on avait l'habitude aux Cavaleurs du Clin d'organiser des courses plutôt nature. Et là, c'est vrai qu'on a changé du tout au tout. On a changé de format, on a changé de date, on a changé de lieu. Voilà, on a tout changé.
Vous êtes originaire de Jaunet-Marigny, peut-être, non, pour le faire sur le secteur?
Oui, alors, enfin, originaire, ça tout dépend ce qu'on appelle. Oui, ça fait une vingtaine d'années que je suis sur Jaunet-Marigny, mais à la base, je suis originaire de Strasbourg, donc juste un petit peu à côté de Jaunet.
Eh bien, écoutez, ça tombe bien, parce que tout à l'heure, on parlera du moral des maires. On pourrait peut-être justement remonter le moral de celui de Jérôme Neveu, hein, s'il en a besoin. mais c'est vrai que vous intervenez donc au niveau du trail sur la Technopole. D'où vous est venue l'idée de ce trail?
Alors, cette idée-là, donc avec Serge Boriès, ça fait un an et demi qu'on est président des Cavaleurs du Clin. Et on sentait bien qu'au niveau des Cavaleurs, il y avait un essoufflement, hein, par rapport à la course qu'on organisait et d'une manière générale au sein de l'association. Donc, il a fallu trouver une idée qui fédère, qui rassemble le plus grand nombre. Nous courons sur la commune de Jaunet-Marigny. Nous courons également pas mal sur Chasseneuil. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on va pouvoir effectivement rassembler un maximum de personnes? Et surtout, on voulait que ce projet-là, il soit au-delà et qu'il réunisse au-delà de la communauté, de la course à pied et de la marche d'une manière générale. Et c'est tout naturellement qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement autour de Jaunet et de la Technopole du Futuroscope? Voilà. Donc c'est comme ça qu'est né ce projet-là. Et c'est vrai que courir sur la Technopole, on va dire, sans rentrer dans les bâtiments, c'est moins attractif. Donc on s'est dit, tiens, on pourrait effectivement, à l'ère des trails urbains qui sont très à la mode, on s'est dit qu'on pourrait faire justement un trail urbain sur cette Technopole, et en mettant vraiment l'accent sur les spécificités de cette Technopole. J'en vois au moins deux spécificités. Donc, on a des entreprises. Ça, c'est la première chose. Donc, il fallait inventer quelque chose avec les entreprises. Et d'autre part, il y a également un campus universitaire. On a une école d'ingénieurs, on a une université. On a, si on parle du secondaire, on a également un lycée, le LP2I.
Oui.
Et donc, dans ce projet-là, qui a déjà démarré depuis un an, en fait, hein, l'événement a lieu le 13 juin, mais nous, on a déjà commencé à travailler sur l'événement avec les entreprises, avec les étudiants, avec les lycéens, avec les collectivités locales, les mairies, etc. On travaille sur le projet déjà depuis un an. Et l'idée, c'était d'embarquer tout ce monde-là et de construire un projet qui fédère. Et notamment, moi, je travaille sur la Technopole du Futuroscope à l'université de Poitiers. Et on se rend compte, il y a certaines réflexions qu'on s'est faites. Et donc moi, je dirais que, moi qui suis scientifique, on a essayé de poser une équation en essayant de répondre et de cocher plusieurs cases. Ces cases sont les suivantes, non exhaustives bien sûr, la liste. D'une part, il faut dynamiser cette Technopole parce qu'il y a des actifs qui y travaillent. Il y a des gens de l'université, il y a des lycéens, il y a des étudiants.
Oui, c'est 10 000 comment... personnes, je crois.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est quand même assez énorme. Et finalement, on se rend compte que il y a certaines ne se connaissent pas. Et encore plus loin, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas forcément nos voisins qui travaillent eux-mêmes sur la Technopole. Et peut-être encore moins ce qu'ils y font. Mmh. Et encore moins, on n'a pas eu l'occasion de rentrer dans les bâtiments du copain qui travaille juste à côté. Et on ne sait pas forcément ce qu'il fait.
C'est ce que vous avez proposé, de rentrer dans les bâtiments.
Donc l'idée, c'est de rentrer dans ces bâtiments-là, justement, de faire un circuit qui traverse un certain nombre de bâtiments. Malheureusement, on ne pourra pas tous les faire. Mais on se laisse aussi un petit peu d'éléments pour le futur. Et donc là, on va traverser un certain nombre de bâtiments, une petite vingtaine qui nous ont ouvert les portes pour découvrir, on va dire, certains bâtiments emblématiques de cette technopole. Puisque voilà, il y a aussi le grand public qui se pose des questions en passant à côté de cette technopole. Mais ces bâtiments à l'ère futuriste, en tout cas voilà, à une époque à l'ère futuriste, qu'est-ce qu'on y fait, etc. Donc c'était aussi ouvrir les portes et de faire un peu une forme de journée du patrimoine, mais au sens public et privé, pour ce grand public justement, pour pouvoir découvrir ces bâtiments et ce qu'on y fait.
Exactement, parce qu'il n'y a pas que des hôtels, il n'y a pas que le parc du Futuroscope, il n'y a pas que l'Arena d'ailleurs, hein, qui a un beau succès d'ailleurs aussi, je suppose, l'Arena, non ?
Oui, j'y étais hier soir pour tout vous dire. Ah. Il y avait un grand match de basket avec le Poitiers Basket, et surtout il y avait Dadju en showcase derrière, et c'était complet.
Ah, ouais,
donc, plus de 4500 personnes, donc c'est un vrai succès depuis l'ouverture.
Cette Arena, un vrai succès l'Aquascope, un vrai succès le Futuroscope, et puis tout la Technopole, c'est retour. Pour s'inscrire au trail, il reste de la place encore, j'ai vu qu'il restait très peu de place il y a quelques jours encore, donc peut-être que c'est un peu
alors tard. Aujourd'hui l'événement est complet aujourd'hui. Donc on est très content, évidemment, au niveau de l'association on est très content de l'engouement qu'il y a eu autour de cet événement là néanmoins nous avons ouvert une liste d'attente, voilà, parce qu'il y a il y aura forcément des gens qui auront envie de revendre leur place pour des diverses raisons, d'autres qui ont envie de s'inscrire. Et d'autre part, je vous invite également, si vous le pouvez, à venir encourager tous les coureurs et les marcheurs, puisque voilà, on souhaite que cette technopole, que la technopole vibre ce jour-là et qu'il y ait un maximum de personnes rassemblées. Voilà, on veut une unité de cette technopole ce jour-là.
Exactement, c'est le 13 juin à partir de 19h30.
19h30, le départ qui sera échelonné. Puisque ça fait du monde, donc il y a des traversées de bâtiments, donc pour éviter l'effet entonnoir, voilà, il y aura des départs à 19h30 jusqu'à 19h40, et les marcheurs ensuite finiront la marche, quoi.
Vous ferez partie des coureurs ou des marcheurs, Jérôme ?
Des marcheurs.
Déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, ouais. Ça fera plus de 2 heures de marche. Un joli parcours. Moi, je voudrais dire, voilà, c'est un bel exemple de la dynamique de la vie associative en relais des mairies. Heureusement qu'on a effectivement tous ces bénévoles qui, à nos côtés, eh bien, animent la commune. Et sur la Technopole, il y avait un vrai besoin d'animation où, Clancy l'a très bien dit, il y a des entreprises et des sites d'activité, mais universitaires les uns à côté des autres, mais les gens ne se connaissent pas. Il y a eu des tentatives par le passé et c'est vrai que le succès du Technotrail ne m'étonne pas. Il y avait un manque et vraiment on les soutient à 200%.
Quand on est maire d'une commune comme Jeunet-Marigny, les animations c'est important. On a, c'est pas un comité des fêtes, mais je suppose qu'il y a des associations.
On a une centaine d'associations. Alors, ça va, l'association des anciens combattants, oui, au comité des fêtes. Notre plus bel événement c'est la foire au vin miel gastronomie. Et là, il y a plus de 100 bénévoles qui accueillent les 7000 visiteurs annuels qui découvrent cette foire, qui accueillent des exposants de toute la France, viticole. Donc il faut, parce que la commune n'aurait pas les moyens toute seule de porter ce type d'événement.
Oui,
bien sûr, on met à disposition nos services techniques pendant quelques jours pour aider les bénévoles à installer et à orienter les visiteurs. Mais c'est vraiment fondamental, parce que nos budgets ne nous permettront plus demain, ça fait partie du moral des troupes aussi, demain d'organiser des nouveaux événements comme celui-ci.
Écoutez, avant d'avoir une petite larme, on va continuer l'émission. On parle du moral des maires, justement, dans les communes. C'est vrai que c'est assez compliqué. Pour les petites communes, notamment, énormément de choses qui arrivent avec la gestion. Ouais. C'est un travail énorme avec très peu de monde. Alors vous avez la chance, entre guillemets, si vous êtes accompagné par une administration, ce qui est plus compliqué dans les petits villages.
Ah ben, j'en suis convaincu. Alors, pour vous donner quelques chiffres, depuis le début de la mandature, depuis 2020, il y a eu 2400 maires qui ont démissionné en France. Et dans la Vienne, on est à 28. 28, alors, des fois pour des raisons de santé, de dissension dans l'équipe, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est faut manager, ses services municipaux, mais aussi son équipe. Et puis ensuite, c'est surtout le quotidien des maires. Il est en première ligne, on le disait tout à l'heure, mais le poids des normes, la baisse des dotations aussi, qui nous fait quand même chaque mal. Cette année, pour ma commune, on s'est pris la cotisation des caisses de retraite des fonctionnaires territoriaux, ça représentait du jour au lendemain 120 000 euros de plus. Mm-hmm. C'est pas rien ?
Oui, tout à fait. Ouais. Alors, en même temps, c'est peut-être quelque part une chance, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que depuis des années, les maires des petites communes avaient tous l'envie de médiathèque, de piscine municipale, de city foot ou de choses comme ça. Ouais. C'est vrai qu'on est peut-être allé un peu trop loin et qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être un peu trop d'un seul coup, mais
Ouais, bah, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus les moyens.
Donc, oui, voilà.
et même l'État n'a plus les moyens d'accompagner tous les projets. Non, je pense qu'il y a une forme de régulation naturelle des choses. Il y a des priorités à avoir. Aujourd'hui, on en est surtout à maintenir nos bâtiments, voilà, comme il le faut. La maintenance est fondamentale, plutôt que de lancer des nouveaux projets.
D'accord. On parlait des maires. Apparemment, d'après un sondage, 4 sur 10 ont déjà eu l'envie de démissionner. Vous me dites que dans la Vienne, c'est à peu près 10%. Un peu 28%,
c'est équivalent aux autres mandatures. Pour ça, il ne faut pas dresser non plus un tableau trop noir. Mais c'est clair qu'on a des gens très investis, qui aiment leur commune et qui font un travail de fou. Et notamment, vous l'avez dit, dans les petites communes, où parfois c'est le maire qui tombe, hein, tout simplement. Donc ce sont vraiment des travailleurs du quotidien. Et là aussi, on parle souvent du statut de l'élu. Mais si l'État devait payer les élus au juste prix, au nombre d'heures qu'ils font, eh bien, ça coûterait beaucoup plus cher à l'État.
Exactement. Qui finance justement les élus, que ce soit le maire ou les adjoints, qui le finance? C'est la commune, c'est le budget de la commune?
C'est le budget de la commune, ouais. C'est pour ça que le statut de l'élu local, on en parle d'ailleurs, il devait être présenté à l'Assemblée le 26 mai. Aujourd'hui, malgré ce que m'a dit Françoise Gatel lors du congrès des maires de la Vienne il y a un mois et demi, hélas, ça a été encore repoussé. Et ça fait partie des vrais sujets pour attirer de nouvelles vocations et de nouveaux profils. Aujourd'hui, je comprends qu'il y ait beaucoup de retraités parce que notamment les réunions intercommunales se passent en journée et on peut pas toujours poser des jours. Il faut que votre employeur soit d'accord d'ailleurs, ou sinon vous êtes pas payé. Je pose des journées d'élus, moi, pour pouvoir me rendre disponible à ces rendez-vous. Donc c'est des choix de vie aussi. Et ça, le statut qui était en cours de discussion, et parce qu'il y avait une loi qui avait été déposée au Sénat et une autre à l'Assemblée nationale, se rejoignait sur justement les cotisations retraite aussi, parce qu'aujourd'hui un élu paye beaucoup, enfin est beaucoup moins indemnisé à la retraite qu'un vrai salarié. Donc quand vous prenez des jours, je préfère pas calculer moi aujourd'hui ce que je vais gagner à la retraite, mais bon, c'est des choix. On est tellement animé par la passion de son territoire, de ses habitants, qu'à un moment, bah, il faut faire des choix. Mais bon, ça fait partie des pistes. Regardez la maire de Poitiers, lorsqu'elle est tombée enceinte et son congé maternité, ben, elle n'était pas prise en compte au départ. Donc il y a des évolutions à adopter. Et aujourd'hui, à 6 mois des élections municipales, on n'a pas beaucoup de visibilité sur le sujet.
Ouais. Exactement. Vous avez gardé, vous le disiez vous-même, un pied dans la société civile, hein,
ouais,
en étant...
Exactement. Bah, d'une part, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, il faut en être conscient. Ouais. Et pas se retrouver quand même le bec dans l'eau. Mais bon, si vous faites bien votre travail...
Oui, il n'y a pas de raison, a priori.
Pas de raison, mais bon.
Alors, sans vouloir faire de politique, mais c'est vrai qu'on peut se dire que les électeurs de Genet-Marigny auraient peut-être maille à partir en faisant... partir à un maire qui a ses entrées au Futuroscope, comme vous les avez. C'est vrai que vous avez un rôle actif, hein, on le voit sur la Technopole énormément. Alors, ce n'est pas le cas de tous les maires. Quand on parlait justement du budget, hein, des communes, quand on parlait des maires, c'est vrai que c'est un peu étonnant de voir que les communes doivent prendre ce budget-là. Je pense toujours à une petite commune comme Lautier, hein, 68 habitants. Comment une commune comme ça peut...
Bah souvent, ce qui se passe, c'est que le maire prend moins. Ouais. Hein, pour essayer de garder un peu de deniers dans les petites communes. Forcément... Chez nous, je prends moins, mais pour partager avec les adjoints et les conseillers. Hein, chaque conseiller qui a une délégation a une petite indemnité, au moins qui rembourse ses frais d'essence, etc. Ça peut être symbolique, mais bon, tout s'ajoute avec la multiplicité des réunions, etc.
Est-ce que c'est le rôle d'un maire de baisser son froc quelque part pour son salaire, pour faire son travail, en fait,
hein, ouais, exactement. Et c'est pour ça que parfois, le cumul le permet. Bon, je suis conseiller départemental. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une unité de temps et de lieu, puisque j'habite à 3 km de la mairie, mon travail est à 5, le siège de l'AMF est sur la Technopole. Donc tout ça permet quand même d'être actif et réactif et de gagner du temps, quoi.
Écoutez, je vous propose une dernière pause musicale. Hein, c'est Eco Eco qui nous chante Tout Petit et on revient tout de suite après pour la fin de cette émission.
Visiter les pays, rencontrer des visages et de nouvelles plages où le sable est joli. Écrire de nouvelles pages pour quand nous serons sages, se rappeler la vie. Mais le cœur n'a pas d'âge, tous les vieux adages te mèneront à lui. On est tout petit, petit, petit face à la vie. On est tout petit, 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 et moi aussi. On est tout petit, petit, petit face à la vie.
on est tout petit, petit, petit et moi aussi. Viens, je t'emmène en voyage, découvrir des villages, rencontrer des amis. Apprends de nouveaux langages sur des terres sauvages qui ressemblent au paradis. Foulez encore des plages où résonnent les pages de l'histoire de la vie. Si un jour on est sage, on fera un voyage jusqu'à notre propre pays. On est tout petit, petit, petit face à la vie. On est tout petit, petit, petit et moi aussi. On est tout face à la vie. On est tout petit, petit, petit et moi aussi.
Tout petit, petit face à la vie. Nous sommes toujours sur RC 103.7 et les chemins de traverse hein, pour cette dernière partie d'émission en compagnie de nos invités. Jérôme Neveu, maire de Genêt-Marigny, mais pas que, qui est aussi président des maires de la Vienne. Alors, on ne va pas refaire tout le pédigré. Vous êtes aussi conseiller départemental. Vous êtes responsable de l'UDI, alors j'allais dire le petit parti, mais non, c'est un parti comme un autre, après tout.
Le centre-droit.
Centre-droit, tout à fait.
C'est que le centre-droit, c'est tellement divisé.
Combien
Une chapelle par, par leader.
À l'époque, je ne sais plus à l'époque quel était le l'humoriste hein, qui parlait de réunions politiques dans les cabines téléphoniques.
Oui, c'est ça.
Alors peut-être pas. Vous êtes combien de membres au niveau de l'UDI ?
On est une vingtaine aujourd'hui.
Oui, c'est un peu. Voilà, ouais, bah, pourquoi pas.
Mais parce qu'il n'y a pas un leader qui veut se présenter à la présidentielle. C'est souvent ces machines-là qui permettent, on le voit avec Édouard Philippe et Horizon, LR, bah, ça, je sais pas, ça va se décider prochainement. Mais c'est souvent,
mais peut-être
souvent le cas.
Vous concernant une
en tout cas, c'était les valeurs. Moi, c'est grâce à René Monory, en tout cas, que je suis arrivé en politique. Son parcours m'inspirait, et puis sur la commune de Genêt, on voyait le Futuroscope se construire. Donc en termes d'aménagement du territoire, je trouvais ça fabuleux. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui d'ailleurs, hein, au cabinet du département de la Vienne, comme chargé de communication. Et c'est vrai que c'est là que j'ai appris aussi à ses côtés, et que ça m'a donné envie de m'investir.
D'autres aussi, d'ailleurs, je savais l'année dernière, quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Philippe Jonvel.
Eh ben oui, ah oui, c'est vrai.
Il
oui.
est reçu l'année dernière.
Il est à la retraite, ça y est.
Ça y est,
ouais, mais ouais. C'est aussi un élu local à Chauvigny, ouais. À Chasse-Neuil, du Poitou, en charge du tourisme et de la communication.
Ouais. Exactement, les élus locaux dont nous parlions depuis tout à l'heure, avec le moral des maires, avec le rôle des maires. Au niveau de la sécurité, on en parle quelquefois dans l'actualité, avec des maires qui peuvent être agressés.
Oui, cette semaine, j'ai vu à Libourne, je crois, où un élu local a tenté d'arrêter un rallye de moto, vous savez, dans les rues,
ouais, tout à fait.
Et qui s'est fait agresser violemment. Donc ça arrive. Alors dans la Vienne, on peut pas dire qu'on se sent en danger, mais on sent de toute façon que la population, hein, de manière générale, est beaucoup plus vindicative et s'exprime plus vertement par des violences verbales parfois. Alors tout ça, l'AMF, même dans la Vienne, il y a eu 4-5 cas hein, quand même de violences et d'injures, voire parfois de menaces. Et là, il faut être intraitable, il faut vraiment, j'invite tous les élus à porter plainte. Et aux côtés des élus et des maires, l'AMF peut se porter civil. Là-dessus.
D'accord, vous accompagnez véritablement les maires des communes de la Vienne.
Hein, oui, exactement.
Au niveau de la sécurité, c'est aussi le sentiment d'insécurité au niveau de la population. Alors c'est vrai qu'on est ici à Chauvigny, le maire a annoncé il y a quelques semaines, il l'avait fait d'ailleurs dans notre émission il y a quelques mois, il a annoncé la mise en place de 16 caméras, je crois, dans Chauvigny. Vous avez pensé, vous, alors elles existent déjà à Genêt-Marigny ?
Eh bien, on était assez précurseurs là-dessus, on en a une dizaine. Alors, cela se fait en lien avec la gendarmerie pour choisir les sites les plus pertinents pour eux aussi. Parce que autant ça peut servir à notre police municipale en cas d'incivilité ou de dégradation, mais ça peut aussi servir des enquêtes parfois de niveau départemental. Donc on les a mis bien sûr sur les grands axes pour pouvoir repérer des véhicules qui entreraient ou sortiraient après des méfaits. Et on a résolu plusieurs affaires comme ça. Ça n'a pas été un débat dans la commune. Aujourd'hui, on renouvelle déjà parce que c'est du matériel qui vieillit assez vite. Donc on révèle les caméras. À le départ, elles étaient en noir et blanc. Maintenant, il y a de la couleur. On peut zoomer sur des plaques d'immatriculation. Mais c'est un outil important qui peut accompagner des règlements d'affaires.
Ouais. C'est ça. Alors on voit qu'on est en direct. On entend plutôt qu'on est en direct puisque les cloches de Chauvigny
sonnent. Il est midi
derrière nous. Il est midi moins 5. Ce qui nous dit
sonne 5 minutes avant.
Oui, Chauvigny. Elles vont ressonner aussi à midi.
On a un temps d'avant. Je le dirai à Gérard Herbert. Il faut qu'il remette les pendules à l'heure.
Peut-être d'ailleurs. Hein.
Ou les cloches à l'heure.
Peut-être d'ailleurs. Je ne sais pas où il est actuellement. S'il est ici ou s'il est en congé, il le mériterait bien en tout cas. On parlait donc des maires. Les enjeux pour l'avenir, c'est quoi par rapport aux communes? Parce que c'est vrai que le rôle des maires est de plus en plus restreint, mais par contre, il y a de plus en plus de responsabilités en même temps. Puisqu'au niveau de la population, les enjeux pour l'avenir, c'est quoi
c'est vrai que les enjeux et la loi ZAN, on en a beaucoup parlé. Vous savez, cette loi zéro artificialisation nette des terres. Un maire, au départ, c'était un aménageur, un développeur qui cherchait à faire venir des entreprises, de nouveaux habitants. Et aujourd'hui, il y a tellement de contraintes environnementales. Il est au cœur de toutes les transitions. On a parlé de l'intercommunalité, mais transition écologique, etc. Donc, pour développer, je me pose beaucoup de questions pour 2026 dans les programmes, en sachant que l'État, enfin les gouvernements, changent les règles en cours de route, diminuent les dotations, et on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé l'année prochaine. Hein. Les premières annonces de François Bayrou peuvent inquiéter quand même, parce qu'on considère que les collectivités sont bien gérées, de toute façon elles ont l'obligation d'avoir un budget à l'équilibre, recettes-dépenses, ce qui n'est pas le cas de l'État, et on nous impose toujours davantage. Donc il y a des normes qui s'imposent à nous, mais à contrario, on nous baisse les dotations pour pouvoir les réaliser finalement, les projets qui répondent aux normes. Donc on est dans une quadrature du cercle un peu compliquée. Et il y a beaucoup de questions encore pour l'avenir. Ouais.
Beaucoup de questions, beaucoup de réponses à apporter dans les prochaines élections. Ouais. Vous êtes toujours d'ailleurs conseiller départemental. Au niveau département, beaucoup de choses aussi à faire encore, beaucoup de projets.
Heureusement qu'on a le Futuroscope dans ce département qui permet de développer l'emploi. Hein, là, sur le site du Futuroscope, en l'espace de 3 ans, on a développé plus de 200 emplois. Ce n'est pas rien. Heureusement qu'on a misé sur le tourisme. Hein, on voit bien que ça répond aujourd'hui aux appétences sociétales. Mais il y a des enjeux, notamment en milieu rural, bien évidemment, en termes de mobilité, de scolarité. Aujourd'hui, on comprend qu'on peut pas ouvrir des classes ou de maintenir des classes parfois quand il y a que 5-6 élèves et que la population part. Mais il faut anticiper le mouvement. Aujourd'hui, la direction académique réunit les maires et les intercommunalités pour justement préparer l'avenir. Parce qu'il faut pas attendre le dernier moment. Et je comprends les maires qui voient perdre leurs classes, leurs écoles. Mais il y a une réalité qui s'impose à nous. Mais justement, il faut s'y préparer et ne pas attendre le dernier moment.
Bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'être venu dans cette émission pour parler. Il est bientôt l'heure, il nous reste un peu moins d'une minute maintenant avant de...
En tout cas, c'est un vrai plaisir de parler de ces sujets. C'est vrai que les élections municipales de 2026 vont vite arriver aujourd'hui. Oui. Et donc, j'invite vos auditeurs, s'ils ont du temps, s'ils veulent s'investir pour leur commune, eh bien, qu'ils approchent soit leur maire ou en tout cas montent des listes. Voilà, la citoyenneté s'acquiert et se mérite et donc il faut s'investir.
Exactement. Merci Jérôme Neveu d'être venu à cette émission. Merci Clint d'être venu vous aussi. On se revoit le 7 juin, ici même, pour parler du trail, Technotrail.
Merci pour l'invitation, c'était un plaisir et puis je serai là avec grand plaisir.
Une prochaine, c'est une émission particulière, on va parler de justice, on va parler des jurés d'assises avec une invitée qui va nous expliquer son expérience. Elle a été jurée d'assises il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, sur Poitiers. Elle va nous parler de cette expérience en restant bien évidemment très discrète sur l'ensemble de du procès, mais en essayant de vous apporter de son expérience et de nous dire exactement ce qu'elle a vécu à ce moment-là. Le 24, nous parlerons de la Commune de Paris. Nous montrons l'histoire à 1871 avec les Amis de la Commune de Paris. Le 30, nous parlerons du Triangle d'Or historique avec la visite de la Congrégation des Filles de la Croix, l'ancien prieuré du XIIe siècle de l'Appuy. Nous irons faire un petit tour là-bas. Alors, l'émission n'est pas encore enregistrée, elle sera enregistrée la semaine juste avant. J'espère seulement qu'on aura une sœur pour nous accompagner. Mais voilà, on essaiera de vous parler un peu de cette congrégation qui a 900 ans d'histoire, 900 ans de présence religieuse pratiquement en continu. On n'a eu que deux fois 30 ans, je crois, de départ des moines et moniales à ce moment-là. Le 7 juin, tiens, nous retrouverons encore Kim Sipier pour parler cette fois-là, toujours, mais en plus en profondeur, du techno-trail. Nous parlerons aussi du swimrun qui se déroulera à Chauvigny et de Rando Vienne qui, elle, se déroulera toujours à Chauvigny, mais entre Lussac, les Châteaux et notre bonne vieille ville. Voilà, ça c'est pour le 7 juin. Le 14, nous retrouvons l'économiste Nicolas Moinet que nous devions avoir il y a quelques semaines, qui n'avait pas pu venir tout simplement parce qu'il était appelé à Toulon au niveau de la Marine nationale. Il nous parlera d'ailleurs d'économie bien évidemment, mais pas que, je l'ai eu hier soir, il nous parlera aussi de son expérience dans un sous-marin. Ça c'est pour le 14. Le 21, on parlait d'armée avec Toulon, nous irons au RICM de Poitiers, rencontrer un peu nos militaires à l'occasion des journées portes ouvertes, d'ailleurs, qui se dérouleront les 7 et 8 juin. On va se faire une petite émission à ce moment-là et on vous la retransmettra le 21 juin. Écoutez, à bientôt. La semaine prochaine, on parlera donc des jurés d'assises dans cette émission. Je vous dis merci, à bientôt. Au revoir.
Les chemins de traverse, rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.